Bonsoir, Crime s'installe ce soir en Alsace. Nous sommes donc installés ici en Alsace. C'est la région qui, de façon assez étonnante d'ailleurs, a vu naître la Marseillaise, mais c'est également la région la plus petite de France. Nous allons vous raconter ce soir trois histoires qui se sont déroulées ici même. La petite Sophia, 7 ans, disparaît le 10 mars 2003 dans une petite commune de la région d'Alsace. C'est le lendemain que son corps est découvert dans un ruisseau proche du domicile familial. Selon les experts, la fillette aurait été asphyxiée, puis déposée encore vivante dans le cours d'eau où elle a fini d'agoniser. Très vite, les soupçons se portent sur la mère de la fillette, Tania, qui est mise en examen pour homicide volontaire. Mais vous allez voir que l'affaire est loin d'être réglée.
Ce dossier, c'était un énorme puzzle. Et toutes ces pièces s'assemblaient sans qu'aucune ne recouvre l'autre.
Laurence et Hama s'aiment depuis 8 mois. Laurence voit en Hama l'homme dont elle a toujours rêvé, l'amour de sa vie. Mais lorsqu'il lui annonce froidement qu'il mène une double vie et que ce n'est pas elle qu'il a choisi mais son ex-femme, la gentille employée de supermarché va alors rapidement se transformer en un tueur incontrôlable. À l'aide d'un câble de chargeur de téléphone, elle étrangle celui qui voulait la délaisser pour une autre.
Je dis écoute Laurence, il faut vraiment que tu arrêtes cette histoire parce que je le sens pas. Ça va finir en drame.
Le 22 juin 2004, le corps d'Edwige est découvert dans un cours d'eau au sud de Strasbourg. 7 jours plus tard, le corps de Jeanne-Marie, 10 ans, est lui aussi retrouvé à demi immergé dans un cours d'eau entièrement dévêtu. Selon les experts, la jeune fille a subi de multiples sévices. Cette série macabre prendra fin le 3 juillet 2004 avec la découverte dans un ruisseau du cadavre entièrement dénudé de Julie, 14 ans. Dans les trois cas, ces témoignages ainsi que des analyses ADN conduisent les enquêteurs sur la piste d'un homme, un multirécidiviste, alors en libération conditionnelle, depuis quelques mois.
Ce type était une bombe à retardement. Le relâcher, c'était remettre dehors un fauve.
Crime installé en Alsace avec cette affaire qui se déroule le 10 mars 2003. Tania, une mère de famille, pousse la porte du commissariat pour venir déclarer la disparition de sa fille de 7 ans. Une fille dont le corps sera retrouvé le lendemain matin dans un ruisseau. Elle n'a subi aucune violence sexuelle, elle a été étranglée. Du coup, pour les enquêteurs, plusieurs pistes s'ouvrent à eux. Est-ce le crime d'un rôdeur? Est-ce le crime d'un ami? Ou pire, le crime de la mère elle-même? Voici cette enquête pour Crime.
Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment la disparition d'une fillette de 7 ans a ému toute une petite ville de la banlieue de Mulhouse.
Ce dossier, c'était un énorme puzzle. Et toutes ces pièces s'assemblaient sans qu'aucune ne recouvre l'autre.
Lundi 10 mars 2003. Nous sommes à Brunstadt, une petite ville tranquille du Haut-Rhin qui compte 6000 habitants. Ici, aucun fait divers n'est jamais venu troubler la sérénité ambiante.
Brunstadt, c'est un grand village qui était agricole dans le temps, qui s'est développé, qui est devenu résidentiel à côté de Mulhouse. Plutôt calme, assez riche aussi.
C'est un endroit où il fait bon vivre, où les gens se disent bonjour sans vraiment se connaître, simplement parce qu'on s'identifie comme appartenant au même village.
C'est le printemps avant l'heure, et ce lundi de mars 2003 est la première belle journée de l'année. Les habitants de Brunstadt sont donc sortis pour profiter de la douceur du temps. Mais un appel d'urgence au commissariat de Mulhouse va troubler cette journée tranquille. Tania Pirazinra, mère de 3 enfants, n'a pas vu rentrer de l'école sa fille, Sophia, âgée de 7 ans.
Madame Pirazinra fait appel à la police à 17h47, très exactement, puisque c'est un appel sur le 17 qui est enregistré. Elle précise bien que Sophia n'est pas rentrée de l'école, qu'elle s'inquiète.
Et au commissariat de Mulhouse, la disparition de la petite Sophia est prise très au sérieux. Car la plupart des enlèvements d'enfants se produisent justement sur le chemin de l'école. De son côté, la jeune mère se lance elle-même à la recherche de son enfant, alerte tous les voisins situés autour de son domicile.
Sophia a 7 ans, donc elle est dans une école primaire et elle est censée rentrer à 16 heures. Elle est censée avoir disparu sur le chemin de l'école, donc toutes les patrouilles disponibles se mettent dans le secteur et font des recherches dans un premier temps.
Les policiers le savent, plus les minutes passent, plus les chances de retrouver la petite fille s'amenuisent. Il faut donc faire très vite.
Tout à ce moment-là était possible, donc il faut aller au plus pressé, il faut la recherche aussi d'indices autour de la maison. J'avais à ma disposition une trentaine d'enquêteurs, tous les effectifs étaient quasiment disponibles sur cette recherche, toute la sûreté départementale, mais aussi les effectifs de police secours, donc tout le monde était à la recherche de cet enfant.
Patrouille, porte à porte chez les voisins, distribution de la photo de la petite fille dans les commerces de la ville, un important dispositif de recherche est mis en œuvre pour retrouver rapidement la petite Sophia.
Ils font toutes les rues du village, le long du canal, et puis là, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à tard le soir.
La nuit commence à tomber sur Brunstadt. Et toujours, aucune trace de la petite Sophia, disparue mystérieusement à la sortie de l'école. Conscient de la gravité de la situation, les policiers décident alors d'intensifier leurs recherches.
Toute la nuit, les recherches ont continué. Toutes les patrouilles disponibles étaient à la recherche de cet enfant. Ce n'est pas rien, un enfant de 7 ans qui disparaît. Cette disparition est inquiétante.
Cela fait plusieurs heures que Sophia, la fille de Tania, n'a pas donné signe de vie. Et malgré un important dispositif rassemblant des dizaines de patrouilles, aucun indice ne permet d'orienter les recherches des enquêteurs. L'inquiétude est à son comble et tous se demandent si cette disparition pourrait être une simple fugue ou pire, un enlèvement. Une chose est sûre, plus le temps passe, plus les chances de retrouver la fillette vivante s'amenuisent. À Brunstadt, les investigations pour retrouver la fillette de 7 ans ont continué toute la nuit, sans résultat. À 11h du matin, alors que les policiers sont sur le point d'élargir le périmètre de recherche, ils font une bien triste découverte qui anéantit tous leurs espoirs.
Une des patrouilles qui s'était mise à la recherche de Sophia la découvre à 500 mètres de la maison, même pas. On ne pouvait plus lui venir en aide à cette pauvre petite fille.
Les policiers doivent se rendre à l'évidence. La petite Sophia est morte.
Une partie de son corps repose encore sur la berge. La tête est dans l'eau, mais elle est retenue par les ronces. On constate tout de suite qu'elle est pieds nus, que les chaussettes sont dans les fourrés et qu'il n'y a pas de chaussures. Le corps était jeté près de ce ruisseau, mais pas avec aucune volonté de le dissimuler.
La fillette aurait donc été jetée dans le ruisseau, ce qui exclut la piste de la noyade accidentelle. Mais alors, Sophia aurait-elle été victime d'un prédateur sexuel? Après avoir sécurisé le lieu de la découverte du corps, les enquêteurs se livrent aux premières constatations.
On constate tout de suite qu'il n'y a pas de violence. Elle n'est pas déshabillée. Elle n'a pas non plus subi d'hématomes dans cette chute, entre guillemets, ce qui laisse supposer qu'on l'a plutôt roulée vers le ruisseau. Et ce qui explique aussi les différentes griffures des ronces sur les mains, sur le visage.
La fillette n'a à première vue subi aucune agression sexuelle. Mais sur son corps sans vie, les policiers prélèvent un indice qui va s'avérer capital dans la suite de leur enquête.
Quand on sort cet enfant de l'eau, entre le pouce et l'index, elle avait un cheveu. Ce cheveu est saisi, scellé, il est envoyé en laboratoire.
Entendue par la police, Tania va très vite mettre les enquêteurs sur une piste. Une piste particulièrement intéressante.
Il y a la psychose qui circule dans mon chat que la semaine précédente, il y avait un rôdeur qu'on a vu autour des écoles. C'était marqué dans le carnet de correspondance des enfants aux parents en disant méfiez-vous, il y a un homme inconnu qu'on a vu autour des écoles.
La situation est grave. Il y aurait donc un rôdeur en liberté dans les rues de Brunstatt.
Tout le monde s'est dit, la personne qui a enlevé et tué Sophia, c'est peut-être le rôdeur. La police prend très très sérieusement la piste du rôdeur.
Les enquêteurs décident donc de se mettre à la recherche de ce mystérieux personnage afin de l'interroger.
Le lendemain même, il était au même endroit où il avait été signalé. Et puis, cette piste était rapidement écartée. Il avait le soir des faits, il n'était pas dans le coin. Donc tout ça s'était fait. Sa voiture a été passée au peigne fin, pas l'ombre d'un ADN de Sophia. Donc, en fait, de rôdeur, c'était juste un amoureux éconduit qui essayait de voir sa belle passer. Ça ne tenait pas.
L'abandon de cette piste est un sérieux revers pour les policiers qui pensaient tenir un suspect potentiel. Et pour le commandant Musser, cette affaire de disparition commence à devenir particulièrement tortueuse.
Ce dossier, c'était un énorme puzzle. Donc les pièces venaient une à une et s'inscrivaient dans le cadre de cette enquête. Et toutes ces pièces s'assemblaient sans qu'aucune ne recouvre l'autre. Rien n'est évident au départ.
L'enquête est au point mort. D'autant plus que de récentes investigations ont mis hors de cause le voisinage ainsi que l'entourage proche de Tania. Personne, donc, de près ou de loin, ne semble s'en être pris à Sophia. Mais alors, que s'est-il passé? Qui est l'auteur de ce crime particulièrement odieux? Au commissariat de Mulhouse, les différentes pistes explorées pour résoudre le meurtre de la petite Sophia n'ont rien révélé. Les enquêteurs décident alors de s'intéresser à la propre mère de la fillette, Tania. Une démarche délicate, mais qui n'a rien d'exceptionnel dans ce type d'affaire.
C'est une piste qui est difficile d'envisager. L'infanticide, le crime, la mère qui tue son enfant, c'est quelque chose qu'il est difficile d'admettre. Moi, je suis un policier de la brigade des mineurs et je sais que c'est possible. Et au fur et à mesure où toutes les pièces se rassemblent, on va se rapprocher de plus en plus de cette piste-là.
Premier fait troublant, le comportement de Tania, le jour de la découverte du corps de Sophia. Un comportement qui avait interpellé le commandant.
Pas l'ombre d'une émotion ou de quelque chose. Elle ne demande pas où on l'a retrouvée, comment elle est. Il n'y a pas de questionnement, en tout cas pas de réaction qu'on pourrait faire rentrer dans le cadre d'une réaction d'une mère éplorée ou d'une mère qui vient d'apprendre une catastrophe.
Mais ce n'est pas tout. Ce jour-là, Michael, le fils aîné de la jeune femme, avait face aux policiers contredit la version de sa mère, selon laquelle Sophia ne serait jamais rentrée de l'école.
Il y a un message qui passe justement sur les ondes de la police en disant il faut rechercher une fillette de 7 ans qui n'est pas rentrée de l'école avec une description de Sophia. Et là, il se passe quelque chose de très bizarre, c'est que il y a Michael, donc le frère aîné de Sophia, qui arrive, qui rentre du terrain de jeu, et qui dit, qui entend ce message qui passe sur les ondes des motos, et qui dit bah, si maman, elle est rentrée.
On se demandait naturellement pourquoi Tania avait menti dès le départ de l'enquête sur un point aussi substantiel.
Interrogée par les policiers sur cette incohérence, Tania change alors de version. Elle aurait bien vu la fillette rentrée de l'école, mais l'aurait laissé rejoindre son frère, Michael, sur un terrain de jeu à proximité de leur domicile. Pour se justifier, elle explique avoir ingurgité un mélange d'alcool et de médicaments qui l'aurait plongé dans le sommeil dès le départ de Sophia. Un scénario qui ne convainc guère les enquêteurs.
Elle avait bu de l'alcool, c'est évident, puisqu'on l'avait dépistée à 1,32 g assez tard. Donc ça voulait dire qu'avant, elle était encore à un niveau beaucoup plus élevé. Mais dans le laps de temps entre 16h et 18h30, elle passe 13 coups de fil.
L'analyse des relevés téléphoniques de Tania prouve qu'elle aurait donc menti. Elle ne se serait pas endormie, comme elle l'affirme.
Il y a deux plages horaires au cours de ces deux heures importantes où elle ne communique pas par téléphone, où elle ne tente pas de communiquer par téléphone. C'est entre 16h29 et 17h09. Et une deuxième plage horaire de 18 minutes entre 17h29 et 17h47, puisque c'est l'heure à laquelle elle fait appel à la police.
Deux plages horaires pendant lesquelles Tania aurait pu tuer sa petite fille et même se débarrasser de son corps près du canal. D'autant plus que les policiers constatent sur les bras de la jeune femme de curieuses marques.
Elle a été examinée par le médecin légiste pour ses griffures dès qu'on a fait le rapprochement avec les traces de griffures qu'il y avait sur le corps de Sophia. Donc examen médico-légal simple, photographie des traces de griffures. Là encore, c'est un indice parmi d'autres. On est en train de construire le puzzle.
Des griffures identiques sur Tania et sur sa fille Sophia. L'étau se resserre donc sur la jeune femme. Et c'est le retour du rapport d'autopsie qui va finir de convaincre les policiers.
Aucune trace de coup sur le corps. La seule trace qui est relevée, c'est une trace au niveau de la tête que le médecin légiste pense être plutôt une prise d'une main de femme.
Ce serait donc une femme qui aurait étouffé la petite Sophia entre 14h et 23h. Mais c'est l'analyse du cheveu retrouvé entre les doigts de la fillette qui va changer la donne.
Ce cheveu qu'elle avait entre le pouce et l'index est du même ADN mitochondrial que celui de Sophia et que celui de sa mère. Sophia avait des cheveux noirs jais et ce cheveu était plutôt auburn.
Un cheveu auburn de la même couleur que ceux de Tania. Des analyses ADN à charge, des propos contradictoires, des trous dans son emploi du temps, les policiers ont désormais assez d'éléments pour placer la jeune femme en garde à vue. Alors Tania est-elle vraiment coupable du meurtre de sa propre fille? Au commissariat de Mulhouse, Tania, soupçonnée du meurtre de sa fille, Sophia, doit maintenant s'expliquer. Et dès ses premières auditions, celle-ci va adopter un comportement pour le moins surprenant.
Ses réactions au cours de ces différentes auditions auxquelles elle a eu droit, certaines avant la garde à vue, d'autres pendant la garde à vue, se veulent rationnelles. Aucun affect. Aucune réaction d'une femme qui serait accusée à tort. Aucune réaction de mère éplorée.
Une mère en apparence indifférente, mais qui ne cesse de clamer son innocence.
On a affaire à une femme déterminée qui, immédiatement, va nous clamer son innocence avec une volonté de dire « Je ne suis pas à l'origine de la mort de ma fille et je veux savoir, par contre, qui est à l'origine de cette mort. »
Tania, très loin de s'effondrer, est une femme de caractère. Elle se montre particulièrement persuasive avec ses avocats. La partie civile la soupçonnera même de les manipuler, ce que conteste Maître Bergman.
Nous l'avons entendu, que les premières personnes manipulées, c'était ses avocats, c'est-à-dire Pierre Péter et moi. Alors, nous n'avons pas été manipulés, mais incontestablement, nous avons été sous... Alors on peut le dire, sous le charme, l'influence, on revient à la manipulation. Mais on a été vraiment tout de suite captivé par son combat.
Et tout au long de ses interrogatoires, Tania se montrera redoutable.
Et à chaque fois que Bertrand Musser et les autres... Policiers démentaient ces déclarations en disant ça tient pas, bah, c'est les policiers qui étaient de mauvaise foi. Et elle, elle a toujours raison.
Je dois reconnaître qu'elle m'a impressionné à plusieurs reprises dans des réponses qui fusaient. À aucun moment nous ne saurons la vérité de la bouche de Tania Razina. À aucun moment.
Faute d'avoir pu obtenir des aveux, les policiers recueillent des dizaines de témoignages afin de savoir Quelle mère est Tania au quotidien? Voisins, proches, nombreux sont ceux qui la dépeignent comme une femme irascible.
Apparemment, c'est quelqu'un de très colérique. Elle se comporte d'une façon assez, assez violente. Elle crie, elle hurle, puis de temps en temps, des gestes d'énervement. Et des fessées, des trucs comme ça. Son comportement, c'est vraiment une intolérance à la frustration. Elle ne veut pas qu'on la contredise. Elle veut qu'on fasse comme elle, elle veut.
Une femme autoritaire et colérique qui ferait même preuve de négligence.
Quand elle s'en allait le soir faire la java, elle donnait des somnifères aux enfants, à Michael et à Sophia.
Mais ce qui va particulièrement interpeller les enquêteurs, c'est le rapport qu'elle semble entretenir avec Sophia, la cadette de la famille.
On a des gens qui nous disent qu'elle était capable de... qu'elle repoussait les élans, enfin les demandes, les d'affection que Sophia pouvait de temps en temps lui adresser, elle la repoussait.
C'est une femme qui n'a pas d'affection pour son enfant Sophia, qui a une affection démesurée pour son enfant Michael.
Le 19 mars 2003, Tania est mise en examen.
Le parquet de Mulhouse a ordonné sa présentation devant un juge d'instruction et requis sa mise en examen du chef d'homicide volontaire.
Mais encore beaucoup de zones d'ombre demeurent dans cette sordide affaire d'infanticide. Comment Tania se serait-elle débarrassée du corps de la fillette? Aurait-elle prémédité ce meurtre? Et si oui, quel était son mobile? Deux mois ont passé depuis la mise en examen de Tania. Et en mai 2003, un homme se présente spontanément au commissariat de Mulhouse. Un homme qui connaît bien Tania, puisqu'il entraîne son fils, Michael, au football. Cet homme va alors livrer aux policiers un témoignage capital.
Il avait travaillé dans un jardin à côté du ruisseau où on a retrouvé le corps de Sophia. Et il entend, à un moment donné, un cri. Ce cri venait du canal.
Il voit personne, si ce n'est une barge sur le canal où des ouvriers s'affairent. Et puis il se dit, bon, c'est peut-être un des ouvriers qui a crié. Et puis il décide de rentrer chez lui.
Et c'est à ce moment-là qu'il voit Tania qui revient du ruisseau en poussant la poussette.
Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute que c'est cette poussette qui a permis à Tania de transporter le corps de la fillette. Mais c'est la reconstitution qui s'est déroulé le 24 avril 2003, qui va leur permettre de mieux cerner le mobile et les circonstances du crime. Tout commence par la visite d'Ahmed, l'amant de Tania, qui ce jour-là va se rendre à son domicile.
C'était l'anniversaire de Ahmed. Elle lui avait préparé un gâteau en forme de cœur.
Mais ça ne va pas du tout se passer comme elle l'entendait, parce qu'il va venir... Il va rester très peu de temps. Ils vont avoir une relation sexuelle. Le gâteau, lui, va être oublié sur le bord d'une table et il va repartir.
Pour les policiers, c'est le départ précipité de son amant qui aurait plongé Tania dans sa folie meurtrière.
Et ensuite, elle a picolé. La mayonnaise, elle monte. Sophia rentre de l'école et c'est elle qui prend. Ça se résume à ça pour moi.
Selon le commandant Musseur, c'est bien Tania qui a étouffé sa fille. Et comble de l'horreur, la fillette serait restée passive.
Elle était en train de subir une correction, une punition dont elle avait l'habitude, qui pouvait être... Et voilà, elle a été étouffée sous un coussin. On n'a aucune autre trace de violence. Aucune trace de défense. La seule et unique personne envers qui Sophia ne se serait pas défendue, c'est bien sa mère. On ne se défend pas contre Tania Zinra-Reynard.
Une fois la fillette assassinée, Tania se serait donc servie de la poussette pour transporter le cadavre. Mais pour ses avocats, cette théorie ne tient pas. Le jour du drame, la jeune mère de famille avait en effet le bras plâtré. Détail que les enquêteurs n'ont jamais considéré comme un handicap.
Je me demande comment est-ce qu'on peut faire avaler ça à des personnes sensées, que Tania, qui avait donc un bras cassé, puis descendre un corps inerte de l'enfant qui pesait 27 kilos. J'imagine mal Tania descendre avec ce cadavre, qui est sa fille, mettre l'enfant dans une poussette et partir gaiement, en plein soleil.
Transporter le corps de Sofia avec cette poussette sur cet itinéraire-là, c'est une aberration mentale.
Une enquête contestée par les avocats de la défense, qui vont même jusqu'à accuser les enquêteurs d'avoir falsifié l'heure du crime.
Nous avions un premier document médical qui indiquait une heure précise, 23h30. Et cet horaire correspondait à un moment où Tania est déjà chez les enquêteurs. Il va y avoir tout de suite une réaction des enquêteurs. Sous-entendu, ça ne nous arrange pas beaucoup. Et là, le même médecin va dire, bon, écoutez, finalement, je vais vous délivrer un autre document. Et là, alors, je ne me rappelle plus quelle était la fourchette, mais enfin, c'était longtemps avant la disparition et longtemps après la découverte.
Des attaques qui sont très loin de faire trembler la partie adverse.
La meilleure défense, c'est souvent l'attaque. Quand on est mis en examen, on prétend qu'on est brimé par la police. Et si on a un peu de talent pour la manipulation, eh bien, il suffit de s'engager dans cette brèche.
Dans cette affaire, s'il y avait eu le moindre élément qui laissait supposer, mais une poussière d'éléments qui laissait supposer qu'elle pouvait n'y être pour rien, je vous garantis qu'elle n'avait pas besoin d'avocat, j'aurais été son meilleur avocat. Je préfère 1000 fois un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Et ça, je le dirai toujours, et le jour où j'en serai plus convaincu, je ne serai plus policier.
Une enquête remise en cause par Tania et ses avocats. De véritables tensions entre la partie civile et la défense. Le procès qui va s'ouvrir à Colmar s'annonce particulièrement difficile. Tania fera-t-elle finalement des aveux au tribunal ? Colmar, 29 janvier 2007. Après 4 ans d'instruction difficile, s'ouvre enfin le procès de Tania. Inculpée pour le meurtre de sa fille, elle risque la réclusion criminelle à perpétuité. Un procès placé sous le signe de la tension et largement couvert par la presse locale.
Dès le mardi 30 janvier 2007, le titre du journal L'Alsace résume parfaitement ce qui va se passer. Il est indiqué, affaire Sofia, la guerre de tranchées a commencé et ça a été véritablement un dossier qui a marqué.
Et avant même le début de l'audience, la jeune femme se révèle toujours aussi déterminée et campe sur ses positions.
Dès la première seconde, le procès n'est pas encore ouvert dans la cour d'assises, elle va me donner l'impression d'être comme un entraîneur de, je sais pas quoi, de boxe ou d'équipe collective, etc. Elle nous rappelait régulièrement. Acquittement, acquittement, acquittement. C'est tout ce que je veux. Acquittement, rien d'autre.
Durant tout le procès, elle ne cessera de clamer son innocence. La stratégie de la défense, remettre en cause toute la procédure judiciaire.
Tania, pendant le procès, se comporte de manière très vindicative. C'est des accusations gratuites, c'est le complot de la justice, complot de la police, complot de la presse aussi. Tout le monde est contre elle parce qu'on ne la croit pas innocente.
Une attitude qui va finalement se retourner contre elle.
Elle a pris des risques insensés en jouant la comédie de l'innocence. C'était tout ou rien et elle a payé le prix fort et c'est bien triste pour elle, mais c'est la règle du jeu quand on essaie de tromper la justice.
Après 3 semaines d'un procès particulièrement éprouvant, le couperet tombe. Tania est condamnée par la cour d'assises de Colmar à 20 ans de réclusion criminelle. Un verdict que la jeune femme refuse d'admettre.
Allez donc, c'est du verdict. Tania Irazina pousse un cri. Et là, je vois Tania Irazina, c'est la première fois que j'ai vu comme ça. Je la vois de dos, elle a un genou à terre. Et elle pleure. Et elle dit, je ne l'admets pas, et on fait appel.
Un second procès que Tania va aborder plus calmement.
À Strasbourg, elle a été moins provocatrice et moins maladroite qu'elle ne l'a été à Colmar.
Une attitude moins vindicative qui va s'avérer payante. Tania est cette fois-ci condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Cela fait maintenant 10 ans que la petite Sofia a été assassinée. Et à Brunstatt, personne n'oublie le sourire de cet enfant, dont le meurtre sordide reste à ce jour inconcevable.
Crime est toujours installé à Strasbourg. Adjudant, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Tout d'abord, un point global sur la délinquance dans la région. Quel est le type de délinquance que l'on rencontre le plus souvent ?
L'Alsace est une région relativement tranquille et elle s'inscrit dans une délinquance globalement moyenne dans la nationale. Il y a malgré tout une délinquance qui est liée peut-être à la proximité de la frontière, où les délinquants jouent la proximité, le passage relativement facile vers les frontières pour commettre des délits ou des crimes.
C'est-à-dire qu'il y a une forme de va-et-vient, on vient en France commettre des délits et on repart ensuite immédiatement à l'étranger pour se mettre à l'abri ?
Sur différents dossiers, ça a été constaté, oui. Oui. La criminalité ou la délinquance organisée joue de cette frontière en espérant passer au travers des mailles du filet.
Puisque vous êtes de la gendarmerie, vous êtes en particulier confronté à la délinquance rurale. Ce sont en particulier des cambriolages ?
Oui, beaucoup de cambriolages. L'Alsace est une région riche, tant par l'agriculture que par son industrie. Et forcément, les richesses attirent les cambrioleurs.
Est-ce que ce sont des réseaux organisés ou plutôt des individus seuls qui agissent dans la région ?
Nous avons été confrontés à des réseaux organisés, des organisations claniques en provenance des pays de l'Est.
Est-ce que la délinquance est plutôt violente ? On voit par exemple dans le sud de la France, il y a du carjacking, il y a du homejacking. Est-ce que vous êtes confronté à ça également ?
C'est des phénomènes qui existent, mais sans commune mesure avec la région PACA par exemple.
Crime installé en Alsace avec l'histoire de Laurence, 36 ans, une femme a priori sans histoire. Jusqu'à ce jour où elle va pousser la porte de son médecin de famille pour lui déclarer qu'elle a sans doute commis une grosse bêtise. Et pour cause, chez elle, les enquêteurs vont découvrir le corps de son compagnon étranglé avec une arme pour le moins insolite puisqu'il s'agit d'un chargeur de téléphone portable. À l'origine de ce drame, un trio amoureux qui a mal tourné. Voici notre enquête.
Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'une femme amoureuse qui, blessée, va commettre l'irréparable sous les yeux de sa rivale. Plongée dans une enquête complexe au cœur d'un triangle amoureux.
Je dis, écoute Laurence, il faut vraiment que tu arrêtes cette histoire parce que je le sens pas, ça va finir en drame.
Nous sommes à Mulhouse, capitale de la sous-préfecture du Haut-Rhin, le 25 août 2009. Alors que les 280 000 habitants de cette ville profitent paisiblement des derniers jours de l'été, une jeune femme vit les instants les plus dramatiques de sa vie. Il est 14h, lorsque Laurence Suble, 36 ans, pousse la porte d'un cabinet médical du centre-ville. De toute évidence, en état de choc, elle a une révélation des plus inquiétantes à faire à son médecin.
Humeib nous a dit « il n'est pas mort, il respirait encore ».
Vraisemblablement, elle vient de tuer son compagnon.
En larmes, la jeune femme articule péniblement et ses propos sont confus. Seule, au cabinet, la secrétaire médicale paniquée tente de joindre par tous les moyens le médecin.
Il n'était pas là parce qu'il fait aussi la médecine du travail et c'est sa secrétaire, quand elle a vu l'acte et les conséquences, elle a rappelé le médecin.
Comprenant l'extrême gravité de la situation, le médecin ne tarde pas à arriver. Une fois sur place, il ne peut que constater l'état de confusion de la patiente.
En rien de temps, il était là. Elle était en pleurs catastrophées. Elle pleurait, il n'a jamais entendu pleurer une personne comme ça. C'était une vraie déprime, une crise de nerfs, quoi.
Laurence Sublas confie à son médecin qu'elle serait peut-être la meurtrière de son compagnon. Devant de telles déclarations, l'homme prend alors les décisions qui s'imposent.
Le médecin traitant appelle le SAMU pour demander qu'une équipe aille sur place, sur le lieu où vit cet homme.
Une femme en proie à la panique qui affirme avoir assassiné son compagnon. L'auteur des faits est très loin d'avoir le profil d'une meurtrière. Alors, comment a-t-elle pu plonger dans la spirale de la violence? A-t-elle agi sous le coup de la folie? Et surtout, était-elle seule? Pour les enquêteurs, cette affaire va s'avérer bien plus complexe qu'il n'y paraît. À Mulhouse, les forces de police arrivent en urgence, au nom de la rue Injade, un quartier populaire de la ville. C'est là que vit le compagnon de Laurence Sula. L'homme s'appelle Ama Béchiri et aurait été assassiné par la jeune femme. En pénétrant sur les lieux, le policier chargé de l'enquête s'attend donc au pire.
On découvre donc un corps qui est allongé sur le dos. Un homme d'une quarantaine d'années qui est vêtu d'un pantacourt. On est au mois d'août, il fait très chaud. Hein.
Ama Béchiri est mort. La découverte de son corps sans vie confirme les aveux de Laurence Sublas.
En examinant le corps, on voit tout de suite qu'il porte des traces de strangulation au niveau du cou.
Laurence aurait étranglé son compagnon. Mais sur place, malgré des fouilles minutieuses, rien n'indique aux enquêteurs comment la meurtrière aurait procédé.
On ne trouve rien dans un premier temps qui puisse avoir servi donc à étrangler la victime.
Pas d'arme du crime, certes, mais pour les enquêteurs de la police de Mulhouse, l'identité de l'auteur du crime ne fait aucun doute.
Dès le départ, on sait qui est l'auteur et donc cette femme, Madame Laurence, et de suite interpellé donc par un équipage qui se rend chez le médecin.
Placé en garde à vue, puis auditionné, Laurence se livre alors facilement aux policiers.
Lors de cette première audition, Madame Sue a reconnu tout de suite les faits, hein, être l'auteur. Elle a donné donc le détail.
Laurence Sue reconnaît avoir étranglé son compagnon dans un accès de colère d'une rare violence. Elle explique s'être servie du cordon d'un chargeur de téléphone portable trouvé dans l'appartement pour supprimer Ama. Ce récit, pour le moins atypique, laisse perplexe les enquêteurs.
Ayant vu la victime, qui elle-même mesurait près d'un mètre 80, 80 kilos, première question, je me suis demandé comment une femme aussi frêle a pu étrangler cet homme.
Comment est-ce qu'une femme a pu arriver à étrangler un homme qui a une bonne constitution physique avec un cordon de téléphone? C'est vraiment assez extraordinaire.
Pour les proches de Laurence Sublas, l'annonce de ce drame est un véritable choc. Pour Séverine, sa meilleure amie, ce geste est inexplicable. Laurence était incapable de violence.
Je me suis dit, c'est pas possible. Laurence, c'est la dernière personne au monde capable de faire quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est la gentillesse incarnée. C'est une fille qui est incapable de faire du mal à qui que ce soit, que ça soit physiquement, que ça soit verbalement.
Alors que tous s'interrogent sur le potentiel criminel de Laurence Sublas, les enquêteurs vont faire, au domicile d'Ama, une rencontre pour le moins intéressante.
À l'arrivée des premiers équipages de police, hein, donc il y a trois femmes qui sont assises dans les escaliers, dont l'ex-femme de la victime. Et donc elle est tout de suite ramenée au commissariat pour audition.
Que faisait l'ex-femme de la victime à seulement quelques mètres de la scène de crime? D'instinct, les policiers sentent qu'elle détient des informations. Son interrogatoire va très vite faire basculer l'enquête.
On apprend très rapidement qu'elle a assisté à l'homicide
et qu'elle était présente donc au moment des faits, tout en disant qu'elle n'était pas intervenue physiquement pour empêcher ce crime.
L'ex-femme d'Ama aurait donc elle aussi joué un rôle dans cette sordide affaire. Un rôle passif qui ferait de cette dernière une complice du meurtre de son ex-mari.
Donc il y a une non-assistance à personne en danger et donc elle est placée en garde à vue dans ce cadre judiciaire.
Et pour les policiers, le mobile du crime commence à se dessiner.
Très vite, on se rend compte que derrière, il y a toute une histoire assez intéressante et malheureusement un peu pathétique d'un espèce de crime passionnel.
Ainsi, ce n'est pas un, mais bien deux suspects qui sont mis en cause dans le meurtre d'Ama. Alors, quel rôle ont joué chacune des deux femmes dans ce meurtre ? Laurence Suble est-elle la seule coupable présumée ? L'ex-femme d'Ama est-elle mêlée à cette tragique exécution ? Placée en garde à vue suite à ses aveux, les enquêteurs vont se pencher sur le profil de Laurence Suble afin de comprendre son geste désespéré.
Laurence, c'est Madame Tout-le-Monde. Laurence, c'est quelqu'un qui vit sa vie de la façon la plus droite possible.
À 36 ans, Laurence est hôtesse de caisse depuis plusieurs années dans un supermarché de la ville. Et aux yeux de sa chef de service, elle est irréprochable.
Laurence est une employée efficace, ponctuelle, serviable, très sérieuse dans son travail.
Et si Laurence est appréciée dans son travail, elle a bien plus de mal à s'affirmer dans sa vie personnelle. De nature solitaire, elle dort encore dans sa chambre de petite fille et a très peu de vie sociale.
Laurence, c'est une fille très gentille, très réservée, très timide, qui a du mal quand même à aller vers les autres.
Les enquêteurs comprennent alors que cette vie monacale prive Laurence Hublas d'une vie amoureuse, normale.
À 37 ans, Laurence, elle avait offert son corps à personne. Elle était réellement tombée amoureuse de personne.
Et à l'approche de la quarantaine, Laurence Hublas n'a qu'un rêve. Trouver son futur mari, le père de ses enfants. Sa mère, Renée, s'en souvient.
Elle cherchait un petit peu le prince charmant. Elle voulait fonder une famille, avoir un enfant.
Et c'est 8 mois avant le drame que Laurence touche enfin du doigt le rêve de sa vie.
Un jour, on était chez ma fille et son portable se met à sonner plusieurs fois. Et elle me dit, c'est quelqu'un que j'ai connu au magasin et il m'envoie des petits mots doux et puis il voudrait me rencontrer. Super, c'est génial, on était vraiment contents pour elle.
Elle m'avait expliqué qu'elle l'avait rencontré sur son lieu de travail. Apparemment, il venait faire ses achats dans le magasin où elle travaillait.
Cet homme, c'est Ama Béchiri. Et au début de leur histoire, il a tout du prince charmant. Mots doux, bouquet de fleurs et soirée au restaurant, Laurence Suble tombe alors complètement sous son charme.
Elle était euphorique, elle rigolait tout le temps, pour un oui, pour un non. Elle était... commençait à être pimpante, à se mettre en jupe. Elle qui est toujours en pantalon, elle était vraiment heureuse. C'était le grand amour pour elle, elle a trouvé son prince charmant.
Laurence Suble commence alors à rêver de vie commune, de mariage. Et surtout, elle espère réaliser son plus grand souhait, devenir maman. Mais très rapidement, Ama va montrer son véritable visage, très loin du séducteur qu'il était les premières semaines.
Il avait des sautes d'humeur, il était très gentil, très attentionné, il était très très beau parleur. Et en fait, d'un moment à l'autre, on ne sait pas pourquoi, il devenait très agressif.
Et ce n'est pas tout. L'homme, sans emploi, aurait aussi une forte addiction à l'alcool.
C'est là qu'il a commencé à montrer son vrai caractère. Il buvait beaucoup. Bon, quand on lui demandait, c'était bière ou café, mais surtout bière. Et il buvait énormément.
Monsieur Béchiri avait effectivement une appétence pour l'alcool, pour les produits stupéfiants. Cela rejaillissait sur sa personnalité, sur son caractère.
Mais malgré l'alcool et la drogue, Laurence, plus amoureuse que jamais, décide de s'installer chez Ama. Commence alors pour elle une véritable descente aux enfers.
Peu de temps après qu'elle emménage avec lui, je ne sais pas, peut-être 15 jours, 3 semaines après, elle m'avait rappelé pour me dire qu'elle avait eu une première dispute assez violente avec lui.
Des disputes qui vont se répéter et conduire à une véritable escalade de la violence dans le couple.
Il avait des marques de... des bleus, souvent des bleus, des trucs. J'ai dit, je lui demande, est-ce qu'il te bat ? Non. Bon, d'accord. J'ai dit, c'est quoi cette marque ? Ah, ça, je me suis fait, je sais pas quoi, mal. Ah, mais ça, c'était au travail. Oui, bon. J'ai dit, bon, je veux bien. J'ai dit, mais j'y crois pas.
Ama a une forte emprise psychologique sur Laurence. Aveuglée par l'amour, elle va jusqu'à financer ses moindres désirs.
En 8 mois, c'est-à-dire entre janvier et août 2009, Laurence Hublas aura vidé l'intégralité de ses comptes.
Au printemps 2009, alors que Laurence Hublas est meurtrie par une fausse couche, Ama lui fait un terrible aveu. Un aveu qui met fin à tous ses rêves.
Il lui a dit, toi, de toute façon, je ne t'aime pas. C'est ce qu'il lui a dit un jour, je ne t'aime pas, j'aime Nathalie, et toi, tu es mon portefeuille, c'est tout.
Ama Béchiri trompe depuis plusieurs semaines Laurence avec son ex-femme, Nathalie. Commence alors, entre les deux femmes et Ama, un sordide triangle amoureux.
Je dis, écoute Laurence, il faut vraiment que tu arrêtes cette histoire, parce que je le sens pas, ça va finir en drame.
Un drame qui se produira quelques jours après. Laurence avait-elle prémédité son meurtre ? Quel rôle Nathalie a-t-elle joué dans la mort d'Ama Béchiri ? Les enquêteurs vont à présent tenter de reconstituer le fil des événements qui ont coûté la vie à Ama Béchiri. Et ils vont découvrir que Nathalie, son ex-femme, est à l'origine du drame qui s'est joué le 25 août 2009. Excédée par la situation, elle lui aurait posé ce jour-là un ultimatum.
J'ai dit, c'est bon, ça suffit. Ça suffit de se foutre des gens comme ça, il faut arrêter. Il a monté l'une et l'autre pour pas qu'on ait de conversation ensemble et en nous faisant croire toutes les deux qu'il n'était pas ni avec l'une ni avec l'autre. Il a joué sur deux tableaux.
Nathalie, ne supportant plus ce ménage à trois, décide de contacter Laurence Hublas pour lui faire part de son malaise.
Elle voulait lui ouvrir les yeux, parce qu'elle-même savait ce qu'elle avait vécu. Elle savait qu'elle avait été exploitée, elle savait qu'elle avait souffert avec cet homme-là, et elle ne voulait pas que ça se répercute sur une autre personne.
Pour s'expliquer, Laurence décide alors de se rendre chez Ama. Elle n'imagine pas la tournure dramatique que vont prendre les événements.
Elle est arrivée dans l'appartement, monsieur était plus que bourré, ivre mort.
Béchiri est en présence de ses deux femmes, il est dans son appartement, il est affalé sur une chaise, il a bu comme un trou.
Il a dit, il veut parler, Laurence lui a dit, je n'ai rien à te dire, je ne parle pas avec les ivrognes. Et elle est partie. Et l'ex-femme l'a repris par le bras, l'a remis à l'intérieur de l'appartement et lui a dit, et tu restes là, on a à parler.
Le ton monte et Ama Béchiri prononce à l'égard de Laurence des paroles d'une rare violence.
Il lui a dit toutes les vérités. Il lui a dit, de toute façon, de toute ma vie, j'ai jamais aimé personne, aucune. Je peux tous vous sauter, vous êtes tous des salopes. La seule que j'ai aimée, c'est elle.
Qu'il lui dise droit dans les yeux, voilà, j'en ai rien à faire de toi. Elle a explosé, quoi.
Dans un état second, Laurence Hublas saisit alors le câble d'un chargeur de téléphone posé sur le sol. Et à cet instant, Ama Béchiri, dans une ultime provocation, prononce des mots qui vont lui être fatales.
Il l'a regardé, il lui a fait « Mais tue-moi, tue-moi !»
Animé par la rage, Laurence Hublas va alors commettre l'irréparable, à l'aide du cordon de téléphone, plié en deux.
Elle a mis ce câble, elle a serré, mais il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé rien. Il l'a regardé droit. Ils se regardaient tous les deux.
Je pense que la victime a été très, très surprise, mais ça n'a même pas eu le temps de réagir. Aucun geste, aucune parole.
Nathalie se retrouve confrontée à une scène cauchemardesque.
Je lui ai dit d'arrêter, qu'elle allait aller en prison si elle faisait ça. J'ai essayé une fois de lui enlever les mains, mais j'ai eu peur. Je veux dire, je ne sais pas comment expliquer, c'est vrai que je tremblais de partout.
Ama Bechiri s'écroule. Pourtant, à cet instant, Laurence s'est persuadée que son compagnon est encore en vie.
Avant de partir, Laurence, elle a dit, il respirait encore, elle a pris une couette, lui a jeté sur le visage, elle a dit, je ne veux plus le voir. Elle a pris ses affaires, elle est partie.
Pour les enquêteurs, les circonstances du drame sont à présent claires. Mais le rôle joué par l'ex-femme d'Ama Bechiri reste encore trouble. Nathalie a assisté, sans réagir, au meurtre de son ex-mari. Alors, désirait-elle sa mort? Ou pire, était-elle l'accomplice de Laurence Sublas? Au commissariat de Mulhouse, les enquêteurs vont à présent s'intéresser de près au rôle de Nathalie, l'ex-épouse d'Ama Bechiri. Pourquoi n'est-elle pas intervenue pour empêcher ce drame? Face aux enquêteurs, sa réponse va être, pour le moins, surprenante.
Moi, je pleurais, je suis allée m'asseoir dans ce coin et j'ai pu regarder. Il est tombé comme... C'est vrai qu'il a souvent joué au malaise pour qu'on le soigne et tout et tout. Et c'était la même chose. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était en train de vraiment... Je ne pensais pas qu'on pouvait...
Pour Maître Moser, avocat de la famille Bechiri, cette argumentation ne tient pas.
Alors qu'il est au sol, ne réagit pas. Elle aurait même, semble-t-il, encouragé. Laurence Sublas a persévéré dans l'action criminelle. Donc, de la part de ces deux femmes, un comportement de brutalité, un comportement de connivence et un comportement exempt de toute pitié face à une victime totalement vulnérable, vu son état d'imprégnation alcoolique.
Nathalie aurait donc bel et bien une part de responsabilité dans le décès de son ex-mari.
Nathalie a eu un rôle clé dans l'affaire, oui, parce que si elle l'avait empêché Laurence, peut-être qu'Ama Bechiri ne serait pas mort.
Alors, était-ce dans son intérêt qu'Ama Bechiri soit tuée? Il faut dire que son ex-époux lui a fait vivre pendant leur mariage des moments particulièrement difficiles.
Il pouvait être très gentil au départ et d'un coup, changer de visage, être le diable. Donc être le diable, être très, très méchant verbalement. Il était capable de vous humilier, de vous rabaisser, méchamment, très méchamment.
Des mauvais traitements qui pourraient, selon la partie civile, justifier la passivité de Nathalie pendant le déroulement du drame.
Qui était excédée par le comportement de Bechiri, elle en avait par-dessus la tête, elle voulait en quelque sorte effectivement le punir. Et cette punition était administrée par une tierce personne qui est Laurence Sublas, ce qui était une solution, disons, de facilité pour... Et elle est donc coupable, non pas d'une action positive, mais d'une action négative, une action d'abstention, si je puis ainsi m'exprimer, à savoir ne pas intervenir, ne pas empêcher le crime.
Mais pour Nathalie, à aucun moment, elle n'a souhaité cette mort. Elle se défend en expliquant avoir agi sous le coup de la peur. Oui, elle a bien été chercher de l'aide, mais auprès de ses proches.
Quand je suis sortie dans l'escalier, la seule chose que j'avais envie, c'est d'aller chez moi chercher quelqu'un. Je voulais quelqu'un de chez moi qui vienne m'aider, qui me dise quoi faire, je ne savais pas. Quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le savoir. Mais on ne réfléchit pas à tout ça. On ne pense pas ni au téléphone, ni à rien de tout ça. On pense qu'à une chose, aller chercher de l'aide. Et pour moi, l'aide, elle était chez moi.
Une mauvaise décision qui aurait peut-être pu sauver la vie d'Ama Bechiri.
Mais elle n'a pas vérifié s'il était mort ou s'il était vivant. Donc après, on ne sait pas ce qui a pu se passer derrière, quoi.
Elle n'a rien fait pour porter secours à quelqu'un qui pouvait encore, le cas échéant, être sauvée si des secours étaient venus rapidement. C'est une tragédie et je répète que quelle que soit la personnalité d'un être humain, on n'a pas le droit de le mettre à mort. Et surtout pas de cette façon-là.
Nathalie aurait donc pu éviter la mort d'Ama Béchiri. Alors, initiatrice ou complice, voire simple spectatrice du drame? Nathalie et Laurence Sublas devront en répondre devant les jurés de la cour d'assises de Colmar. Septembre 2011, soit 2 ans après le meurtre d'Ama Béchiri. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises de Colmar. Sur le banc des accusés, Laurence Sublas comparée pour meurtre. Nathalie, l'ex-épouse, quant à elle comparée pour non-assistance à personne en danger et non-empêchement d'un crime.
L'ambiance dans le box est un peu tendue, d'autant plus que les deux femmes se trouvent l'une à côté de l'autre en tant qu'accusées devant la cour d'assises.
À la barre, Laurence Sublas choisit d'assumer et de répondre de ses actes.
Il est premièrement hors de question d'obtenir un acquittement parce que c'est pas du tout l'acquittement qu'elle souhaite elle-même plaider. Laurence Sublas assume ce qu'elle a fait. Elle n'est pas du tout dans l'état d'esprit de se déresponsabiliser, de rejeter cette faute sur quelqu'un d'autre ou de dire « c'est pas vrai, je ne l'ai pas tué ».
La défense de son avocat montre au juré que Laurence est une femme comme les autres. Une femme qui, par amour, a perdu la raison, l'espace d'un instant.
Ce jour-là, elle en arrive à devenir une femme qui tue l'homme qu'elle aime. Cette histoire peut arriver à n'importe qui, tout comme vous pouvez avoir un accident de la route. En étant le plus prudent possible au volant de votre véhicule, vous pouvez, au coin de la rue, le matin en vous rendant à votre travail, renverser un petit gamin qui traverse sur un passage protégé. C'est ce qui est arrivé à Laurence.
Pour les proches d'Ama Béchiri, ce procès est une épreuve. Tous ont l'impression que l'homme est passé de victime à accusé.
C'est pas parce que le portrait de la victime n'est pas reluisant que forcément il mérite de mourir. Enfin, on n'en est pas là, loin de là. Je ne pense pas un seul instant qu'Ama Béchiri méritait de mourir.
J'ai pensé que, quelle que soit la psychologie, le comportement de la victime, on ne peut pas, on n'a pas le droit de mettre à mort, d'exécuter un être humain dans des conditions aussi, surtout aussi abominables.
Lors de ce procès, Nathalie ne changera pas de version. Non, elle ne souhaitait pas la mort de son ex-époux. À l'issue de 3 jours d'audience, le verdict tombe. Laurence écope de 10 ans de réclusion criminelle. Quant à Nathalie, les jurés ont été cléments. Elle sort libre du tribunal, avec obligation de porter un bracelet électronique.
À l'énoncé du verdict, elle s'est effondrée en larmes. Elle s'est effondrée en larmes, elle m'a embrassé, elle m'a remercié et j'ai montré la sortie où ses enfants l'attendaient. Quoi. Et là, ça a été les grandes embrassades. Elle était libre.
Depuis le verdict, presque 2 ans se sont écoulés et grâce à un comportement exemplaire, Laurence Sublas devrait bénéficier très bientôt d'une remise de peine. Profondément marquée par ce drame qui a bouleversé sa vie, elle devra, à sa sortie de prison, essayer de tourner la page.
Je ne sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle, mais dans les semaines, dans les mois, peut-être même dans les années qui ont suivi ces faits, elle était toujours amoureuse d'Ama Béchiri. Je lui souhaite du fond de mon cœur. Je ne suis pas certain qu'un jour, elle arrivera à refaire sa vie. Si elle y arrive, ce ne sera pas facile parce que Béchiri sera toujours dans sa tête.
L'histoire de Laurence n'est malheureusement pas un cas isolé. En France, une personne meurt tous les 3 jours, victime d'un crime passionnel. Un chiffre qui fait peur, mais qui reflète hélas une bien triste réalité.
Nous sommes toujours installés ici à Strasbourg pour ce numéro de crime, pour faire un point sur la criminalité, la délinquance dans la région. Avec nous, l'adjudant Feuerstein. Il y a quand même une vraie particularité dans cette région, c'est le vol de métaux et de pots catalytiques. Pour quelle raison ici on s'attaque à ce matériel?
C'est la situation économique engendre forcément des demandes. Les prix des métaux flambent. L'évolution des véhicules automobiles avec la présence des pots catalytiques qui sont très chers à remplacer engendre un besoin qui s'étend également dans les pays de l'Est, et on a des ressortissants des pays de l'Est qui viennent commettre ce genre de vol, pots catalytiques ou métaux, pour d'une part les métaux sont revendus, les pots catalytiques réinstallés sur des véhicules à l'étranger.
Alors c'est assez étonnant parce qu'on a parcouru avec CRIM de nombreuses régions, c'est la première fois qu'on nous parle de ce type de vol.
C'est un phénomène qui est pris en compte en ce moment par la région d'Alsace, parce qu'on est confronté à un grand nombre de vols de pots catalytiques, notamment en ce moment.
Il y a des villes où, dans la banlieue, c'est compliqué pour la police et pour les gendarmes d'entrer. C'est le cas ici aussi?
Je crois que c'est relativement typique à toutes les grandes villes. Il y a forcément un quartier classé comme délicat ou difficile par les forces de l'ordre.
C'est quel quartier ici?
À Strasbourg, la police pourrait vous répondre plus, mais on entend souvent parler du Neuhof, le quartier du Neuhof, qui est relativement difficile.
Crime installé en Alsace avec une affaire qui date de 2004, mais dont toute la région se souvient encore. Il faut dire qu'elle avait marqué la France entière. À cette époque, deux jeunes femmes sont enlevées, ainsi qu'une femme. Leurs corps vont être retrouvés dans les ruisseaux d'Alsace. L'homme qui est soupçonné a un surnom. Il s'appelle Pierrot le Fou, et c'est un multi-récidiviste. Et vous allez voir que son parcours est incroyable. Portrait d'un serial killer.
Dans l'affaire qui va suivre, vous allez voir comment toute une vallée en Alsace va sombrer dans la psychose. Confronté à un dangereux tueur en série.
Ce type était une bombe à retardement. Le relâcher, c'était remettre dehors un faux. Un prédateur.
Schirmeck, 26 juin 2004. Nous sommes au cœur de l'Alsace, dans la région du Bas-Rhin. Tout comme de nombreux enfants du village, Julie, une jeune adolescente de 14 ans, est partie se balader à vélo avec une amie.
C'est un village généralement assez calme, avec une délinquance très, très limitée par rapport aux grandes villes. On s'inquiète pas forcément d'un retard. Il n'y a pas de raison particulière de s'inquiéter lorsque des gamins sont dans la rue ou dans la forêt.
Mais aujourd'hui, la jeune fille semble prolonger sa promenade, ce qui étonne particulièrement Françoise, sa maman, car Julie a des petites habitudes auxquelles elle ne déroge pas.
À 5 heures, je me suis fait la réflexion, tiens, elle n'est pas rentrée, il y avait un de ses feuilletons, parce qu'elle était assez fan de télévision. Et je me suis dit, oh, bah, c'est bien. Elle n'est pas rentrée pour son feuilleton, elle se plaît dehors, elle fait du vélo, tout va bien.
Mais voilà, l'heure tourne et Julie ne revient toujours pas. Françoise commence alors à s'inquiéter.
6h30, elle n'était pas rentrée. Donc je téléphone sur le portable, je crois, de Maud, de son amie. Et c'est là que Maud me dit, mais elle est rentrée depuis, on s'est quitté sur les coups de 5h, 5h15, elle devrait être rentrée. Et là, c'était pas normal, donc je prends la voiture, je vais à sa rencontre, entre guillemets, le chemin qu'elle était censée avoir pris. Je ne vois rien, pas de Julie, aucune trace de freinage ou de quoi que ce soit.
Françoise arpente en vain la route de Schirmeck. Il n'y a aucune trace d'accident, aucune trace non plus du vélo de la jeune Julie. Angoissée, elle décide alors d'alerter la gendarmerie locale, qui immédiatement évoque l'hypothèse d'une fugue.
On a regardé, son sac de couchage était à sa place, on a calculé l'argent de poche qu'elle aurait pu avoir sur elle, elle ne pouvait pas avoir grand-chose, et il y a ce fichu vélo qu'on ne trouvait pas. Donc là, c'est là que ça collait pas, quoi. Si elle avait fait une fugue, moi, je pensais qu'elle avait laissé le vélo près de la gare, pris le train, parti, je ne sais pas où.
Franchement, on ne voyait pas pourquoi elle aurait fugué. Elle était très bonne élève, très intégrée dans sa famille, une famille formidable, des parents aimants.
La thèse de la fugue ne tient pas la route. Et alors que la nuit tombe, Julie n'a toujours pas donné signe de vie. Pour ses parents, l'inquiétude grandit. Alors, lui est-il arrivé quelque chose sur le chemin du retour? Ou pire, a-t-elle fait une mauvaise rencontre? À Schirmeck, cela fait déjà 24 heures que Julie a disparu. Pour la gendarmerie, cette disparition est d'autant plus inquiétante que quelques jours avant, une autre disparition a été signalée à 30 km de là. Dans le village de Rino, une petite fille de 11 ans, prénommée Jeanne-Marie, s'est elle aussi volatilisée, et ce dans des circonstances similaires. Tout comme Julie, la petite était partie se balader en vélo.
Sa mère, ne la voyant pas venir à manger à midi, commence à se demander où elle est. Son frère, qui savait qu'elle avait filé au terrain de tennis, prend son vélo, va au terrain de tennis de Rino et voit le vélo de sa sœur abandonné.
Dans ce genre de disparition, les gendarmes le savent. Il faut agir vite. Ils décident alors de déployer des moyens considérables.
Dès le départ, la gendarmerie a quand même affaire à des disparitions très inquiétantes d'enfants, dont une en plus extrêmement jeune pour laquelle la thèse de la fugue n'est pas concevable. Donc les moyens étaient mobilisés.
À Schirmeck, c'est plus de 150 gendarmes qui sont mobilisés pour retrouver Julie.
Il y a eu des battues très importantes autour de Schirmeck. On a essayé de refaire les quelques kilomètres qu'elle avait parcourus à vélo, mais ça ne donne rien.
On a sonné à différentes portes pour qu'ils nous ouvrent, pour qu'on aille visiter les caves. Je crois que toutes les caves ont été visitées. Vraiment, je peux presque dire que Schirmeck a été mis sans dessus pour retrouver Julie.
Mais malgré les moyens mis en œuvre, Julie et Jeanne-Marie restent introuvables. C'est alors qu'un troublant témoignage vient faire rebondir l'enquête sur la disparition de Jeanne-Marie. À quelques kilomètres de là, dans un autre village, deux enfants font le récit d'une étrange scène. Une scène qui se serait déroulée chez une famille de vanniers, des gitans sédentarisés, redoutés des habitants.
Il s'agit d'une famille qui fait un peu tâche dans ce village d'Artelsheim, qui est très alsacien, très joli, très décoré, avec des géraniums sur toutes les fenêtres. Et cette famille de croque-mitaines, c'est un peu comme ça qu'ils sont décrits ou ressentis dans le village, qui habite un peu à l'écart, à côté du cimetière, dans une maison totalement délabrée, et qui fait peur.
Et c'est justement dans la maison de ces vanniers qu'il se serait passé quelque chose en lien avec la disparition de la petite Jeanne-Marie. Quelque chose qui intrigue immédiatement la gendarmerie.
Ces enfants vont signaler à leurs parents, qui bien entendu saisiront la gendarmerie, d'un événement, à savoir que l'un d'entre eux aurait vu dans la cour de ces vanniers ou yéniches une petite fille qui aurait été mise ou qui aurait été en tout cas vue dans un coffre et qui bougeait encore. Ça va être un élément important parce qu'à ce moment-là, elle était donc vivante.
Les gendarmes procèdent alors immédiatement à leur interpellation et place 16 personnes en garde à vue. Mais très vite, les interrogatoires vont prendre une tournure insolite.
Les gardes à vue d'autant plus complexes que ces gens-là sont quand même fortement alcoolisés du matin au soir. Ils n'ont plus aucun souvenir de ce qui s'est passé la veille. Et on leur demande de raconter des choses qui remontent à plusieurs jours. Et je pense que pour se libérer du poids de la garde à vue et de ces questions, de ce harcèlement des gendarmes, et ben un certain nombre d'entre eux en sont arrivés à dire « c'est bon, je signe, oui, on a fait le coup ».
Forcément, puisque vous avez autant de versions qu'il y a d'individus, certains qui avouent, d'autres qui n'avouent pas, mais ceux qui avouent ne mettent pas en cause les autres, ou les mettent en cause. Enfin, effectivement, ça part dans tous les sens.
Des aveux incohérents, Mais pas seulement. La perquisition de leur maison ne révèle aucune preuve tangible de leur culpabilité. Aucun indice qui puisse aider à retrouver Jeanne-Marie.
Ils prélèvent des tas d'habits, des couettes, ils vont faire des prélèvements partout, dans la voiture, tout, rien, pas l'ombre d'un élément qui puisse indiquer que Jeanne-Marie a été dans la maison.
Donc on a des accusations extrêmement graves entre les membres de la même famille, mais on n'a aucun élément matériel pour les étayer.
Alors, en suivant la piste des Vanier, les gendarmes auraient-ils fait fausse route ? Cette famille de Vanier a-t-elle réellement un lien avec la disparition de Jeanne-Marie ? Et qu'en est-il de Julie ? Les deux jeunes filles sont-elles seulement encore vivantes ? Dans la vallée du Bas-Rhin, cela fait maintenant plus d'une semaine que les gendarmes sont à pied d'œuvre pour retrouver les deux fillettes. Nous sommes le 28 juin, dans le village de Valf, lorsque des promeneurs font une terrible découverte, laissant peu d'espoir sur cette affaire.
Le corps est retrouvé par des habitants du village, des promeneurs qui se promènent au bord de la rivière et qui voient une forme flotter. L'une des habitantes du village avait déclaré qu'elle pensait que c'était une poupée qui était immergée dans l'eau, puis rapidement on se rend compte que malheureusement c'est le corps d'une petite fille.
Les vérifications sont faites assez rapidement, les vêtements concordent. Selon toute vraisemblance, et ce sera confirmé dans les heures qui suivent, il s'agit de Jeanne-Marie.
La découverte du corps de Jeanne-Marie va faire basculer l'enquête dans l'horreur. Car une fois sur place, les gendarmes vont devoir faire face à une scène de barbarie. Jeanne-Marie a été sauvagement assassinée.
Les premiers qui sont allés sur les lieux, quand ils ont vu le corps de l'enfant, ils ont d'abord pensé qu'elle avait été mangée par des bestioles qui passaient par là, quoi. Et c'est seulement quand l'autopsie a eu lieu que vraiment on s'est rendu compte de l'étendue de l'horreur, de comment elle était morte, quoi.
Le corps de la petite est immédiatement transféré à l'Institut médico-légal de Strasbourg. Et sur place, l'autopsie livre des conclusions terrifiantes.
On découvre que cet enfant a été victime de sévices extrêmement graves, puisqu'on a à la fois des traces de strangulation, mais également des traces de mutilation. On ne sait pas à ce moment-là si elles sont ante ou post-mortem, de mutilation au niveau des organes génitaux.
Le ventre a été découpée, lacérée, elle a été quasiment éviscérée comme on éviscère un animal. C'est une scène atroce.
Un mode opératoire d'une rare violence. Mais surtout, un mode opératoire connu des gendarmes qui font immédiatement le rapprochement avec un autre cadavre, retrouvé quelques jours plus tôt dans la même vallée.
À partir de la découverte de Jeanne-Marie, on va constater que celle-ci porte des traces de mutilation qui sont très similaires à celles que porte également une jeune femme qui a été retrouvée quelques jours auparavant, donc le 21 juin, à l'issue de la fête de la musique, dans des circonstances quelque part analogues.
Et pour cause, tout comme Jeanne-Marie, les gendarmes retrouvent le cadavre d'Edwige Vallée près d'un ruisseau. Les sévices endurés par cette mère de famille sont identiques à ceux de la petite fille.
Cette jeune femme, au premier temps, n'a pas donné lieu à un lien entre les deux affaires, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une enfant, mais d'une femme de 38 ans, qui, il faut le reconnaître, présentait un aspect assez jeune, assez juvénile.
Pour les gendarmes, plus de doute. Ces deux meurtres ont clairement un lien. Pire, un serial killer serait peut-être à l'œuvre dans la région.
Les mutilations sur le corps, tant d'Edwige Vallée que de Jeanne-Marie, ne laissent place finalement à assez peu de doutes. C'est la même main qui a tenu le couteau dans les deux cas.
Là, la psychose s'installe et très vite, les enquêteurs soupçonnent que Julie a été la proie de la même personne.
Pourtant, de son côté, malgré les nouvelles alarmantes, Françoise espère encore, plus que tout, retrouver Julie vivante.
Je passais tout en revue, le fond du jardin. Elle me disait, elle revient peut-être, elle a peur, elle n'ose pas. On regardait tout le temps. On ne savait pas où elle était. Ça a été un moment terrible.
Mais Julie est-elle seulement encore en vie? Qui est ce mystérieux serial killer qui sévit dans la région? Les gendarmes vont-ils réussir à mettre la main sur celui qui sème la terreur? À Schirmeck, toujours aucune trace de Julie, disparue 3 jours plus tôt. Et alors que les gendarmes font tout pour pister le tueur en série présumé, un témoignage va faire rebondir l'enquête.
Certains éléments vont permettre de faire avancer l'enquête à partir du 28 juin. Notamment un témoignage, qui apparaîtra quelques temps plus tard, d'un individu ayant vu, peut-être, une jeune fille qui décrit comme étant éventuellement Julie, en train de discuter avec le propriétaire, ou le conducteur en tout cas, d'une Ford Escort blanche.
Les gendarmes, ils n'ont qu'une seule envie, c'est interroger ce conducteur, parce qu'il est peut-être un témoin clé qui serait le dernier à avoir vu la jeune fille, ou alors il est le suspect numéro 1.
Coup de chance, il se trouve que ce véhicule, les gendarmes le connaissent bien. Ils ont à l'œil son propriétaire depuis plusieurs mois. Et pour cause, il sort à peine de prison. C'est un multi-récidiviste en liberté conditionnelle. Cet homme s'appelle Pierre Baudin.
Pierre Baudin, surnommé Pierrot le Fou, est connu dans la région pour un parcours judiciaire assez hors du commun, où il a, depuis 1969, totalisé plus de 30 ans de détention.
Il est passé au braquage à main armée, et il était surtout connu pour ça, en Alsace. Pierrot le Fou, braqueur de banque.
Pierrot le Fou, comme le surnomment les gendarmes, a à son actif un énorme casier judiciaire. Dès sa jeunesse, il ne cesse de faire des allers-retours entre la prison et les hôpitaux psychiatriques.
Là, laissez-moi.
Il a connu, en effet, toutes les juridictions répressives et cours d'assises, alternant des passages en hôpitaux psychiatriques. C'est quelqu'un qui manque pas de ressources en matière criminelle, oui.
C'est un homme à qui la justice a donné ses chances de réinsertion. Et malgré cela, eh bien, il persiste dans son activité criminelle. Il va crescendo, d'ailleurs, dans son activité criminelle. Et je dis qu'il n'est pas dangereux, il est super dangereux.
Pierre Baudin est donc surtout connu pour être un braqueur de banque. Mais en enquêtant sur sa personnalité, les gendarmes vont découvrir une autre facette du personnage, celle d'un dangereux prédateur sexuel.
On a découvert que Pierre Baudin, pendant qu'il était détenu, entretenait ou essayait d'entretenir une correspondance avec la fille d'un ancien co-détenu. Enfant d'abord, puis jeune adolescente, et lui envoyait des courriers qui relèvent clairement de la pornographie, d'une fascination complètement morbide pour la virginité, pour les règles. On a relevé qu'il notait les dates à laquelle cette jeune fille était indisponible.
Un pervers, un grand pervers, et qui a une relation aux femmes extrêmement violente.
Et justement, les disparitions d'Edwige, de Julie et de Jeanne-Marie se produisent alors que Pierre Baudin vient tout juste de sortir de prison. Pour les gendarmes, il devient donc le suspect numéro 1. Immédiatement, l'homme est interpellé dans une casse automobile où il a trouvé refuge depuis sa libération. Mais voilà, Baudin a un alibi.
On se dit, c'est lui. Et il donne un alibi. Et l'alibi, à tout le moins le témoignage, est exploité immédiatement par les services de gendarmerie.
Une amie à lui va dire « Non, non, il était avec moi, il ne pouvait pas être sur la route. » Et donc les gendarmes sont obligés de le relâcher.
Et l'alibi était incontournable. L'alibi était là.
Coup dur pour les gendarmes, convaincus de la culpabilité de Bodin. Dans les heures qui suivent son audition, il est relâché. Mais s'il n'est pas l'assassin de Jeanne-Marie et d'Edwige, qui est le tueur en série? Les Vanier ont-ils alors quelque chose à voir avec ces meurtres? Retrouvera-t-on Julie vivante? Alors que les gendarmes sont dans l'impasse, l'enquête va basculer le 30 juin 2004, soit 5 jours après la disparition de Julie. Dans les hauteurs du village de Notalten, le vélo de l'adolescente est retrouvé. Et sur ce vélo, les enquêteurs ont enfin une preuve qui accable Bodin.
Du sang est retrouvé sur le vélo de Julie. Le sang en question, une analyse génétique d'urgence est faite et on constate que c'est le profil génétique parfait et conforme à celui de Pierre Bodin. Et là, on fonce et on va chercher Pierre Bodin là où il est censé loger et où il loge.
L'homme est à nouveau interpellé dans sa caravane et sa voiture est immédiatement passée au peigne fin. Cette fois-ci, les gendarmes n'ont pas l'intention de le laisser s'en sortir. Et la fouille sera extrêmement payante.
Dans la Forêt Blanche, à l'issue de l'enquête, on finira par retrouver du sang de Julie, des éléments d'ADN ou éléments pileux de Jeanne-Marie, d'Edwige. Il est clair que ces trois jeunes filles ou jeunes femmes ont été, à un moment ou à un autre, en contact avec ce véhicule.
Forcément, cette voiture, à elle seule, c'est un peu tous les rayons qui viennent des enquêtes aboutissent à cette voiture.
En garde à vue, Bodin refuse catégoriquement de coopérer. Mais très vite, les derniers espoirs de retrouver Julie vivante s'envolent. Le 3 juillet, soit une semaine après sa disparition, le corps mutilé de l'adolescente est retrouvé à quelques kilomètres de chez elle.
Elle est retrouvée, elle aussi, dans un cours d'eau. Et elle est recouverte, si mes souvenirs sont bons, d'une plaque de tôle. Les enquêteurs constatent qu'elle porte les mêmes types de blessures que Jeanne-Marie et que Edwige.
Pour la famille de Julie, la découverte du corps est une terrible épreuve. Mais aussi une réelle délivrance.
Un soulagement, on l'a retrouvée, elle est retrouvée. Bon, après, s'en suit les horreurs des détails, mais c'était important de la retrouver, et effectivement, il y a un soulagement qui s'installe. Au moins, on sait. On est fixé. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est un soulagement de l'avoir retrouvée.
Pendant l'interrogatoire mené par les gendarmes, Bodin nie tout en bloc. Il n'a rien à voir avec ces crimes barbares. Ce n'est pas lui qui a tué Julie, Jeanne-Marie et Edwige.
Malgré les preuves scientifiques convergentes et accablantes, je confirme que Pierre Bodin n'a jamais cédé un pouce de terrain aux enquêteurs et aux juges d'instruction. Il s'est toujours drapé dans la comédie de l'innocence.
Du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême fin, il va nier les faits qui lui sont reprochés.
Mais alors que Bodin résiste aux interrogatoires des enquêteurs, la colère des habitants monte dans la vallée du Bas-Rhin. À Colmar, près de 5000 personnes défilent en silence pour manifester leur indignation. Pour eux, Bodin n'aurait jamais dû être remis en liberté conditionnelle.
Ce type était une bombe à retardement. Le relâcher, c'était remettre dehors un fauve. un prédateur.
On le libère, on se dit, bon, peut-être qu'il commettra quelque chose, mais peut-être qu'il commettra pas non plus. Mais quand il commet, on voit ce que ça donne. Je veux dire, c'est quand même 3 vies qui ont été enlevées. C'est terrible, c'est 3 familles totalement détruites. Tout ça parce qu'on s'est dit, bon, peut-être qu'il recommencera pas.
Alors que la tension monte, Baudin est placé en détention à la prison de Strasbourg. Le procès à venir permettra-t-il d'apaiser la douleur des familles et de répondre enfin aux zones d'ombre qui entourent ces crimes odieux? Le 10 avril 2007 s'ouvre au tribunal de Strasbourg le très médiatique procès Baudin. Un procès d'envergure qui rassemble plus de 15 avocats. Car dans cette affaire, il n'y a pas que Pierre Baudin sur le banc des accusés. Il y a aussi les 16 vanniers inculpés pour le meurtre de Jeanne-Marie. La tension est énorme.
C'était un procès à la hauteur des enjeux quand même. Il y a 3 gamines qui sont mortes dans des conditions épouvantables. Et il y a une kyrielle d'accusés. On se posait la question de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette région de France.
Au fur et à mesure des audiences, les preuves s'accumulent contre Pierre Baudin. Et bientôt, aux yeux de la justice, tous les vanniers sont totalement innocentés.
Tout se fait dans le débat oral et peu à peu émerge cette vérité qui est que les vanniers n'ont rien à voir dans le meurtre de Jeanne-Marie.
Baudin reste seul sur le banc des accusés. Mais devant les nombreuses preuves réunies contre lui, et malgré la douleur des familles, il continue farouchement à nier.
Il se rebiffait, il devenait fou furieux, il hurlait parfois dans la salle. Il se prétendait victime d'une cabale, d'un complot. Mais alors un peu d'humanité, un peu de sensibilité, un peu de chaleur humaine vis-à-vis de ses parents qui sanglotaient en évoquant les enfants assassinés, eh bien, rien de rien.
Une attitude choquante et éprouvante pour les proches des victimes. Le procès vire alors au cauchemar. Difficile de comprendre comment une telle violence a pu se déployer sur de si jeunes enfants.
C'est la violence, c'est le mal, c'est le besoin de faire mal. Il ne faut pas oublier qu'au moins pour Jeanne-Marie, les mutilations étaient ante mortem. Elle était vivante. Et elle a mis 20 minutes, au moins, à décéder. Ça, c'est Pierre Baudin.
Un tueur présumé d'une rare violence dont personne n'arrive réellement à cerner la personnalité. Baudin, alias Pierrot le Fou, reste, envers et contre tout, une véritable énigme pour les experts psychiatres.
Pierrot le Fou, c'est quelqu'un qui aujourd'hui totalise près d'une 50aine d'expertises psychiatriques ou psychologiques. C'est peut-être le sujet le plus criminel, en tout cas le plus expertisé en France. Mais c'est aussi quelqu'un pour lequel on n'a pas, c'est rare dans l'histoire de la médecine, un avis partagé, à peu près un consensus sur la personnalité de cet individu qui restera sans doute un mystère.
Un psychiatre avait dit, devant la cour d'assises, pour résumer Pierre Baudin, avait dit « Pour moi, c'est une énigme psychiatrique ». Je ne peux pas vous en dresser un portrait. Je ne sais pas à qui j'ai affaire.
À l'issue des 3 mois de procès, le verdict tombe. Et il est implacable. Pierre Baudin est condamné à une peine de 30 ans, incompressible, de réclusion criminelle.
À terme, la sanction qui a été prononcée, à savoir la perpétuité assortie de 30 ans de sûreté, est la plus haute sanction qu'une cour d'assises pouvait prononcer. Elle est à l'image, je crois, de la dangerosité du personnage, de l'horreur de ses crimes et de la douleur des victimes.
Une peine de prison qui met un terme à la folie meurtrière de Pierre Baudin. Dans la vallée du Bas-Rhin, les mois ont passé depuis le verdict. Et dans la petite maison blanche de Schirmeck, la vie continue. Malgré l'horreur.
Julie est toujours là tous les jours. Ça, je pense pas qu'il y ait une seule journée sans qu'on y pense. Ce qui nous a aidé sûrement à tenir, c'est Hélène, Claire et Fabien, hein, frères et sœurs de Julie, parce que eux, comme dit, ont toute leur vie devant eux. Et il faut qu'on œuvre un maximum pour qu'ils puissent vivre et s'épanouir sans ombre au tableau, sans cette ombre au tableau.
En Alsace, c'est toute une population qui restera à jamais marquée par le souvenir de Jeanne-Marie, Julie et Edwige.